Elle est vitale, indispensable à la régulation du climat, au développement de la vie sur Terre, au maintien des écosystèmes et des populations, à l'agriculture. Elle semble être inépuisable. Et pourtant, selon l'ONU, près de la moitié de la population mondiale vit dans des zones où l'eau peut manquer au moins un mois par an. Un chiffre qui pourrait presque doubler d'ici 2050. Et l'eau potable voit sa qualité diminuer partout dans le monde. Alors, comment permettre à chacun de boire à sa soif? Quel impact a l'eau sur notre santé? Et comment organiser le traitement de cet or bleu? On en parle dans ce nouvel épisode de La Fabrique du Savoir saison 2, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France de Poitiers. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde et je reçois trois invités pour approfondir ce sujet à l'occasion de l'université d'été de l'EMF dédiée à la Grande Muraille Verte, une université qui reçoit une cinquantaine de chercheurs africains et européens à Poitiers. Agathe Zen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la cellule eau du CNRS et directrice adjointe de l'Institut écologie et environnement du CNRS. Vous étudiez la perception, les pratiques, les comportements et les usages dans le domaine de l'eau. Jérôme Labanowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche CNRS également et vous étudiez la présence de médicaments dans l'environnement et leurs conséquences sur l'antibiorésistance. Et enfin, Massamba Diouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique, spécialiste de chirurgie dentaire et vous avez travaillé sur les impacts de l'eau sur la fluorose dentaire dans le Ferlot. Vous nous expliquerez. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous travaillez donc tous les trois dans le domaine de l'eau. Pourquoi avoir choisi ce domaine de recherche ? Agathe Zen.
L'eau est juste une question vitale. Si on ne boit pas d'eau pendant 3 jours, ben là, se posera la question de la durée de la vie. Et cela, c'est valable pour l'ensemble du vivant, que ce soit les humains, mais également les plantes et les animaux. C'est un enjeu vital. Finalement, il y a de l'eau partout sur Terre. On dit que la Terre est bleue comme une orange. La part de l'eau douce est extrêmement minime, mais finalement, elle suffit. Enfin, par rapport aux différents besoins qu'on peut avoir pour satisfaire différents usages. La question qui se pose, c'est sa répartition. Sa répartition et l'évolution des dynamiques des populations qui vont prélever cette ressource pour satisfaire les différents besoins. Et donc, c'est absolument un enjeu vital qui se fait de plus en plus vulnérable au regard des changements globaux qui concernent à la fois croissance démographique, littoralisation, densification urbaine de plus en plus grande, l'eau nécessaire pour l'alimentation de ces populations et qui, par la force des choses, a une incidence sur la disponibilité de la ressource, sans compter le changement climatique, mais aussi sur les pressions anthropiques qui vont impacter la qualité de cette ressource, à la fois dans les milieux et par conséquent dans l'eau qui va être nécessaire pour satisfaire les besoins pour les humains, et donc des enjeux qui s'inscrivent dans une approche complètement globale et systémique de la Terre, qui nécessite du coup des approches complètement pluridisciplinaires pour comprendre la complexité des enjeux qui sont associés, la disponibilité et l'évolution de la qualité de la ressource, et en même temps dans une approche intégrée qui nécessite la relation avec les usagers, les acteurs des territoires, compte tenu des vulnérabilités, des singularités des territoires et dans leur rapport à l'eau, sachant qu'évidemment, on vient tous d'un milieu aquatique et on a tous des représentations symboliques, des valeurs culturelles liées à l'eau qui ont un impact direct sur les pratiques quotidiennes que l'on peut avoir à l'eau et dans le rapport qu'on va avoir avec cette ressource et ce bien vital.
Ce bien vital, justement, vous l'étudiez vous aussi, Jérôme Labanowski. Pourquoi avoir choisi ce domaine ?
Comme l'Agathe a dit, effectivement, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est omniprésent dans le quotidien de toute la population. Puis, c'est aussi quelque chose qui est à la fois source de fédération pour les gens, mais aussi source de beaucoup de conflits. Et quand on s'intéresse à l'eau, en fait, on s'intéresse finalement beaucoup à l'homme, au final. Et on a surtout envie d'essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice et d'essayer de trouver des solutions pour concilier tout ça.
Massamba Diouf, vous êtes responsable du pôle eau à Dakar. Quelle est la situation en termes d'eau en Afrique ? On voit que finalement, c'est un continent de paradoxes. Il y a 17 fleuves, 160 lacs, de nombreux pays sont en périphérie d'océans. Et pourtant, on manque d'eau en Afrique.
Oui, on manque d'eau parce que même si les nappes existent, qu'elles soient superficielles ou souterraines, évidemment, le problème de l'exploitation le problème de la disponibilité de l'eau, c'est ça qui pose plus problème. Parce que pour que l'eau des nappes profondes, l'eau des sources souterraines puisse être exploitée, ça demande évidemment beaucoup de moyens. Et souvent, les populations africaines ne sont pas disposées à trouver ces moyens-là pour pouvoir approvisionner ce qu'ils demandent en quantité et en qualité par rapport à cette ressource de la vie.
Pour vous, Agathe Ozen, l'eau est un bien commun, un produit qui ne doit pas être soumis à la loi du marché. Quel rapport ont les sociétés à cette eau qu'on a l'impression, je le disais en introduction, d'être infinie et finalement pas tant que ça?
En fait, on se rend compte de la valeur de l'eau quand on n'y a plus accès comme d'habitude. Soit parce que on tourne le robinet, chez nous c'est une habitude, on tourne le robinet et l'eau arrive et on se pose absolument pas de questions et on veut surtout pas savoir où éventuellement elle s'en va quand elle a été souillée. En revanche, quand on tourne le robinet et que l'eau ne sort plus, là on se dit mais tiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou de la même manière, si elle sort avec une couleur particulière, là il y a une prise de conscience de finalement de cette valeur de l'eau à laquelle, finalement, on ne fait plus attention parce que complètement intégré dans les habitudes. Ça, c'est pour les pays qui ont la chance de disponibilité, de disposer de cette ressource au robinet. Donc nous, en France en particulier, on a cette chance-là. La question se pose différemment quand il faut programmer sa journée en fonction de l'heure à laquelle on espère avoir de l'eau au robinet. Parce que c'est à ce moment-là que le réseau va être mis en route et dont on va essayer de bénéficier. C'est aussi une autre valeur quand on voit que dans le Canari ou dans la réserve d'eau, dont le niveau est en train de diminuer de plus en plus, on dit « Ah, là, il va falloir qu'on fasse 10 km, 15 km pour aller chercher l'eau, passer une demi-heure, une heure pour aller au puits, au forage, aller chercher l'eau pour satisfaire les besoins humains ». Et parfois, prioritairement, et c'est souvent dans la région du Ferlot, pour les animaux et les petits ruminants. C'est-à-dire que la priorité, c'est que le cheptel bénéficie de l'eau dont elle a besoin, prioritairement même par rapport aux humains. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et sachant que le cheptel ne va pas consommer n'importe quelle eau, et elle ne peut consommer qu'à partir du moment où elle a mangé. Donc, avoir de l'eau ne suffit pas si on n'a pas eu le fourrage nécessaire pour les troupeaux. Donc, du coup, finalement, en fonction des contextes liés à la disponibilité de la ressource, à la facilité d'accès, on va avoir un rapport à cette disponibilité particulier. Ça n'introduit pas la question de la qualité. C'est pas parce qu'on a accès à de l'eau qu'elle est forcément de bonne qualité. Le système hydrologique veut qu'on a les eaux de surface, les eaux souterraines, quand on parle de l'eau douce, et qui sont alimentées régulièrement quand on considère le grand cycle de l'eau par le système hydrologique et avec les systèmes de pluviométrie. Et on se rend compte que avec le dérèglement climatique, on a une modification de ce grand cycle de l'eau qui conduit à la provocation d'un certain nombre d'événements extrêmes qui favorisent finalement des décalages dans le temps et dans l'espace des volumes d'eau qui viennent du ciel, dont on peut imaginer qu'elle est gratuite, mais qui là encore prend une valeur encore plus différente quand elle vient à manquer. Et donc on se retrouve dans des situations où souvent en période hivernale, on a beaucoup de pluie qui viennent recharger les nappes. Les nappes qui vont permettre du coup de puiser cette eau pour satisfaire les besoins en été et jusqu'à l'automne notamment. Et donc là, on se trouve dans des situations de pression sur la ressource où la disponibilité de l'eau dans les stocks naturel n'a pas été renouvelé d'un point de vue naturel compte tenu d'un hiver assez sec et qui n'a pas permis de renouveler l'ensemble des stocks et qui conduit du coup à la nécessité de réduire un certain nombre d'usages, de raisonner les prélèvements pour prioriser un certain nombre d'usages vitaux parce que l'eau là elle est manquante et donc du coup, on devient dans une logique de pénurie.
Massamba Diouf.
Juste pour ajouter que par rapport à l'Afrique et particulièrement au Sénégal, ce qu'on peut considérer, c'est que la réserve d'eau qui existe est suffisante au point que finalement, si l'exploitation est faite de manière correcte, on devrait satisfaire toutes les populations en termes d'approvisionnement en eau. Ça, c'est un élément qu'il faudra relever. Maintenant, vous l'avez dit, la qualité également est une autre question. qu'on devra peut-être discuter plus tard pour dire un tout petit peu qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour protéger nos populations en termes de problèmes liés à l'eau.
Après la quantité, la qualité, forcément, parce qu'on ne peut pas boire et utiliser n'importe quelle eau. La rareté de l'eau de qualité est à l'origine de nombreuses maladies. Les maladies hydriques, d'ailleurs, sont la première cause de mortalité sur le continent africain, soit directement parce qu'on la boit, soit parce qu'elle entraîne la prolifération aussi de moustiques vecteurs de maladies. Quel type de maladies on peut rencontrer liées à l'eau ?
Essentiellement, après, quand on regarde au niveau des hommes, ça va être souvent des maladies au niveau diarrhéique, des choses comme ça. C'est les premières maladies que l'on observe principalement au niveau des populations. C'est-à-dire que la dégradation de la qualité, quand on la voit en tant qu'usage, elle porte aussi bien sur une qualité microbiologique, c'est-à-dire sanitaire pour pas rendre, on va dire, des maladies à la population, soit d'un point de vue, on va dire, physico-chimique, pour pas créer des intoxications à la population. Et vous parlerez notamment du fluor.
Un des problèmes aussi, ce sont les résidus de médicaments dans les eaux qui peuvent eux aussi avoir des conséquences sur la santé.
Oui, disons que c'est une pollution qui est un peu emblématique parce que les médicaments, pour l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui soigne, c'est quelque chose qui guérit, donc ça a une bonne image. Donc, d'un seul coup, les visualiser comme un polluant, ça casse un peu un paradigme que l'on a. Et du coup, c'est une pollution qui touche plus facilement, qui sensibilise plus facilement le public et qui le responsabilise un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on la met souvent en évidence. Mais je pourrais aussi vous parler de tous les résidus d'hygiène, produits cosmétiques que l'on va retrouver aussi dans les milieux aquatiques, puisqu'ils transitent par le même système d'eau usée jusque dans les stations d'épuration et in fine jusque dans les rivières. Et c'est vrai que les médicaments, oui, on en trouve. Ce qui est aussi perturbant dans le cas des médicaments, c'est que les médicaments sont des molécules qui sont censées être actives sur le vivant, et justement, soit pour lutter contre des bactéries, c'est le cas des antibiotiques, soit pour traiter d'autres pathologies. Et du coup, comme ce sont des molécules dites actives sur le vivant, ça veut dire qu'ils peuvent maintenir leur activité dans l'écosystème aquatique. Du coup, les peurs que l'on a, c'est que finalement, ces activités effectivement s'opèrent dans le milieu aquatique et créent de nouveaux dysfonctionnements. Et c'est pas tant seulement le dysfonctionnement de l'écosystème qui interpelle aujourd'hui le pouvoir public essentiellement, c'est ce retour, on appelle ça cette boucle de rétroaction, qui fera que lorsque notre environnement est dégradé, lorsqu'on commence à générer des nouvelles maladies ou exacerber certains effets dans le milieu aquatique naturel, eh bien, par une approche que l'on appelle le One Health, qui intègre à la fois la santé environnementale, la santé animale, qu'on appelle la santé vétérinaire, et la santé humaine, finalement, tout est plus ou moins lié et imbriqué par différentes interactions. Et donc, la dégradation de la qualité de nos ressources, en fait, de toute façon, reviendra tôt ou tard par un biais ou par un autre, exacerbé sûrement par changement climatique, on en a parlé un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu cette crainte qu'il y a autour de la qualité, qui est la qualité de l'eau que l'on consomme et la qualité de l'eau dans laquelle on rejette et qui est notre environnement de vie. Quoi.
Donc des poissons qui auront pu gober effectivement des molécules de médicaments, on les consommera ensuite et donc c'est un cercle vicieux.
Voilà, et puis l'eau qui provient des rivières provient souvent d'une agglomération au-dessus ou d'une ville ou d'une nappe et finalement les polluants rejetés par les concitoyens un peu plus haut peuvent affecter cette ressource qui est utilisée pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, peut éventuellement, on peut imaginer, contenir des traces de résidus et du coup, on peut l'imaginer aussi, consommer ces résidus.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de molécules qu'on peut retrouver dans l'eau et qui pourraient avoir des conséquences derrière ?
Il y a des molécules emblématiques. Alors, on parle souvent de la féminisation des poissons, oui. Parce qu'on parle souvent de la pilule contraceptive. C'est un peu la molécule emblématique pour communiquer, mais il y a énormément de composés qu'on peut retrouver dans les environnements, alors notamment les antibiotiques. On ne se rend pas compte, mais quelque part, à l'échelle d'une population, il y a toujours des personnes un peu malades et on prend finalement une quantité pas négligeable d'antibiotiques, notamment dans les pays qu'on dit à haut revenu, comme les pays européens. Du coup, ces composés passent assez bien les filières de traitement que l'on a, nous, les stations d'épuration. On les retrouve dans les rivières et on retrouve des concentrations qui sont, on va dire, assez significatives. Alors, je peux vous donner un ordre d'exemple. Par exemple, on a de l'ordre du quart de cachet de paracétamol dans une piscine olympique. Ça vous montre une concentration extraordinairement faible, ce qu'on appelle nous de la trace, voire de l'ultra-trace, mais ça nous dit qu'il y a la présence. Or, ces composés-là, ils sont actifs dès le premier petit grain présent. Donc voilà, typiquement, c'est des composés un petit peu comme ça, mais finalement, tous les médicaments qu'on prend, tous les produits cosmétiques qu'on prend, tôt ou tard, finissent dans ce milieu récepteur.
Massimba Diouf, vous travaillez donc sur les problèmes de dentition et notamment sur cette problématique de fluorose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
C'est des roches qui libèrent un certain nombre de minéraux qui, après, vont infiltrer l'eau de consommation des humains et à force de les consommer, à force d'être exposé à ce fluor-là, on finit par avoir une transformation de ce qu'on appelle les ions calciques au niveau des émailles dentaires qui vont être remplacés par des ions appelés fluoroapatites, ce qui donne une coloration rouge ou rougeâtre des dents dans certaines contrées du Sénégal et de l'Afrique. Nos études ont montré qu'il y a une prévalence de plus de 85% de la population qui est atteinte par cette fluorose dentaire. Si on prend en compte les différentes sources de provenance du fluor, on peut s'apercevoir nettement qu'il peut y avoir d'autres conséquences plus graves telles que la fluorose osseuse. Donc, ça veut dire que, quelque part, des solutions devraient être imaginées pour lutter contre ce fléau, surtout dans les zones défavorisées. Mais le problème n'est pas seulement que le fluor, hein, il y a aussi les forts taux de sodium qui dépassent largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les normes, qui sont à peu près de moins d'1,5 mg par litre de fluor dans l'eau de consommation. Les concentrations dépassent largement. D'un autre côté, on appelle cela le corridor nord-est et sud-est, qui concerne aussi la zone de Ferlo. La zone du Ferlo, il y a une forte charge en fer. Hein, et tout le monde sait que les effets du fer, qui est un oligo-élément, qui doit en réalité être présent dans l'organisme à l'état de trace, tout simplement. Si on en a une quantité suffisante, il y aura une intoxication et véritablement avec des conséquences qui peuvent être fâcheuses pour la santé des êtres humains. On rapporte également des études que ce même fer, ces mêmes ions, peuvent être vraiment dangereux pour la végétation. Donc, moi, je me posais la question d'ailleurs de savoir est-ce que la rareté de la végétation au niveau du Ferlo ne pourrait pas être imputée, en tout cas, c'est une question de recherche qu'il va falloir explorer, à cette forte présence de fer dans l'eau de consommation, que ce soit au niveau de l'eau d'arrosage ou bien l'eau de consommation.
Comment on fait pour obtenir une eau plus saine? Les infrastructures seules suffisent?
L'eau est imprégnée de ce avec quoi elle est en contact. Donc, ça peut être naturel, comme on l'a évoqué, et ça peut être lié aux pressions anthropiques, donc aux pollutions, à ce qu'on va consommer, ce qu'on va rejeter dans l'eau. Pour avoir une eau qui réponde aux normes de potabilité, donc pour la consommation humaine, y a un certain nombre de systèmes de traitement qu'on connaît bien, qui ont déjà fait leurs preuves, je dirais, en pays européens et occidental de façon absolument évidente, même s'il y a encore d'énormes progrès qui sont et des études qui sont réalisées pour essayer de réduire l'énergie nécessaire, par exemple, pour traiter cette eau. Dans d'autres endroits, on n'a pas forcément la capacité à la traiter. Donc, c'est pour ça que si on a éventuellement, d'un point de vue global, suffisamment d'eau sur un territoire, le problème, c'est sa disponibilité à l'endroit où on en a besoin. Et compte tenu des concentrations de population, notamment dans les zones urbaines, c'est pas forcément là que l'eau est la plus disponible, nécessairement, et que agir sur la préservation de la qualité de l'eau complètement en amont, limiter la dégradation de l'eau, on va dire brute, est un moyen, déjà, de limiter les traitements nécessaires pour la rendre consommable. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est quand on n'a pas de système de traitement qui soit structuré, organisé, institutionnalisé, comme on peut connaître en France, en Europe, etc., et notamment en milieu rural, eh bien, les populations adoptent des pratiques spécifiques qui relèvent parfois d'une certaine efficacité, mais parfois d'autres de croyances. Par exemple, on va mettre de l'eau dans un endroit, dans un canari. Alors, non seulement ça va permettre de préserver une certaine fraîcheur de l'eau, mais en même temps de l'aider à décanter. Et donc que l'ensemble des particules qui seraient éventuellement dans l'eau vont arriver au fond et donc ça va permettre de clarifier l'eau de façon évidente. D'autres vont la filtrer. D'autres vont utiliser des dispositifs en disant bon, alors la filtrer, c'est juste avec un bout de tissu, un bout de boubou qui est là, mais dont on a l'habitude de qu'on a l'habitude d'utiliser et on considère que ça fonctionne bien. D'autres vont dire je mets deux ou trois petites gouttes de chlore, mais là encore c'est une question, qu'est-ce que ça signifie, d'où vient ce chlore, est-ce qu'il a réellement son efficacité, est-ce qu'en fonction du volume nécessaire à traiter ça correspond réellement à un besoin, ou est-ce que c'est pas la croyance que l'on a inculqué quant au fait que il faut mettre du chlore pour purifier l'eau.
Le réchauffement climatique a aussi un impact sur la qualité de l'eau. Même si une rivière, par exemple, est moins remplie, ça ne veut pas dire qu'elle sera moins polluée, entre guillemets.
On imagine bien que ce changement climatique, il va modifier la composition de l'eau, c'est-à-dire concentrer les polluants, mais aussi induire beaucoup de changements. On a parlé des variations du cycle de l'eau tout à l'heure. Effectivement, ce changement, il perturbe un cycle naturel, il crée des moments où il va y avoir de très fortes chaleurs, des augmentations de température, qui du coup, tout l'écosystème aquatique vont aider à le perturber. Tous ces organismes-là qui, pour certains, ont la capacité de proliférer très 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 vite et aussi de produire des toxines ou des éléments comme ça. Et ce que l'on a de plus en plus peur, c'est que, outre ces concentrations de polluants chimiques, on va concentrer aussi finalement ce que je vais appeler, entre guillemets, des polluants microbiens, que ce soit des bactéries, que ce soit des algues. Et ce cocktail va devenir du coup de plus en plus peut-être compliqué à traiter sans vouloir mettre plus d'argent pour traiter de l'eau. Et effectivement, on peut imaginer aussi, j'allais dire, des évolutions par rapport aux pathologies qu'on peut envisager. C'est-à-dire que, pour l'instant, les bactéries et les virus vivent dans un environnement stressant, qui est une pollution chimique actuelle. Mais si cette pollution se concentre, les recherches qu'on commence à mener montrent que finalement, plus on stresse les bactéries et les virus, plus ceux-ci deviennent virulents. C'est-à-dire plus ils se défendent, et en se défendant, ils deviennent de plus en plus infectieux. Du coup, on peut imaginer qu'un organisme qui aujourd'hui est relativement sain pour notre corps à nous à lutter, demain sera plus difficile à éliminer et nos défenses auront de plus en plus de mal parce qu'il aura acquis plus de virulence, plus de résistance.
Et il faudra remarquer que c'est quelque part des opérations qui nécessitent des investissements. Il faut remarquer que pour ce qui est de la bande centrale salée dont je parlais tout à l'heure, ça concerne que 1/5 du territoire national. Donc ça veut dire que tout le reste du territoire peut posséder de l'eau qui peut être rendu potable. L'essentiel, c'est de faire en sorte que le transfert de cette eau-là puisse être possible. C'est-à-dire faire en sorte qu'un forage soit fait quelque part dans un point où l'eau est moins polluée et transférer cette eau-là jusqu'à des niveaux comme la capitale qui est la grande agglomération. Aujourd'hui, 23% de l'alimentation en eau dans la capitale sénégalaise Dakar provient du lac de Guière. Du lac de Guière, à peu près à 250 km de la zone de Dakar. Vous voyez un tout petit peu. Mais les initiatives actuellement sont en train d'être développées parce que vous êtes certainement au courant de l'usine de dessalement de l'eau de mer implantée présentement en construction dans un quartier appelé Mamel pour contribuer un peu à approvisionner davantage la capitale en eau. Ça veut dire que des investissements pareils peuvent exister, mais également on peut, de manière traditionnelle, utiliser des procédés. À l'Université de Dakar, notamment à l'École supérieure polytechnique, il y a des procédés qui sont développés, qui utilisent des eaux calcinées, des eaux, que ce soit des eaux d'animaux ou bien d'autres types, pour filtrer cette eau-là, non seulement la filtrer, mais avoir la possibilité de la reminéralisée pour pouvoir la distribuer aux populations autochtones. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces procédés traditionnels peuvent être utilisés et encadrés pour aider les populations à disposer d'une eau de qualité.
Finalement, qui dit, vous vouliez réagir?
J'allais dire qu'au-delà aussi du traitement des eaux usées, il y a tout le système de collecte qui me paraît aussi très très important et j'allais dire... On le voit moins, là encore, je prends l'exemple français, où finalement on voit tout de suite la station d'épuration, arrivent les eaux, mais on n'imagine pas l'infrastructure, le génie civil qu'il y a tout autour de nous et qui amène par toutes ces tuyauteries ces eaux dans un point central où elles peuvent être traitées, donc dans une usine contrôlée. Et je trouve que souvent, cette notion de collecte, elle est extraordinairement importante puisque c'est la base même de l'hygiène publique, de la salubrité. C'est ce qu'on a vu à Paris du temps du baron Haussmann quand on a commencé à mettre ça. Un des exemples toujours cités, mais j'avoue qu'effectivement, je trouve que au-delà de l'aspect traitement, il y a aussi tout cet aspect culturel de centraliser, collecter, distribuer, recentraliser les eaux pour pouvoir les traiter, qui me paraît très très important.
Je pense qu'il y a un repère intéressant qui malheureusement n'évolue pas forcément aussi rapidement qu'on le souhaiterait, c'est qu'il y a près de 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un service d'assainissement correct. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau qui satisfasse la réglementation pour la consommation humaine. C'est juste gigantesque. Et donc, ça montre bien l'importance des infrastructures et la limite de ces infrastructures. C'est-à-dire qu'on peut être dans une région les pieds dans l'eau, mais sans infrastructure, parce que zone complètement urbanisée, parce que zone, eh bien, on se retrouve dans des situations où on n'a pas la disponibilité de la ressource, l'accès à la ressource, vraiment fondamentalement pour répondre aux besoins. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, on parlait d'usines de dessalement, de réutilisation des eaux. Alors, ça produit quand même une eau qui a une connotation et une valeur qui n'est pas forcément acceptée par les populations à travers leurs usages et dans la vie quotidienne. Et donc, c'est pas parce qu'on va produire cette eau qui, en plus... j'ai eu quelques exemples, notamment en Afrique subsaharienne, où on a mis en place un système de dessalement d'eau de mer. Et en fait, cette eau n'est pas privilégiée puisqu'elle ne répond pas au goût et à la représentation de la qualité qu'on veut en avoir pour l'utiliser. Donc, bien souvent, dans les systèmes qui sont déployés et qui sont développés et améliorés de façon extraordinaire, hein, c'est en Israël qu'on a initié finalement le système de dessalement d'eau de mer. Donc, maintenant, on arrive à des coûts qui sont de plus en plus acceptables. Mais en revanche, on s'arrête souvent à l'usine. Et comment, derrière, le réseau est déployé, comment il est intégré à l'aménagement du territoire, comment il est intégré par les différents usagers, pour quel type d'usage. Et donc là, il y a des enjeux extrêmement importants qui ne rendent pas cette solution technique aussi évidente qu'il soit dans les territoires et auprès des populations. D'où la difficulté d'appréhender ce sujet si vital et de la nécessité d'être à plusieurs en mobilisant des disciplines extrêmement complémentaires pour être en capacité à reconsidérer l'eau pour ce qu'elle est. Et la reconsidérer dans ce qu'elle représente d'un point de vue intrinsèque et plus simplement la voir complètement au service de. Et ça, c'est notamment ce qu'on essaye de promouvoir dans le cadre du programme One Water, Eau Bien Commun, qui vient d'être lancé à l'échelle nationale française et qui devrait permettre, en remobilisant l'ensemble de la communauté scientifique française et des acteurs de l'eau, à réfléchir finalement à cette amélioration de cette gestion de l'eau au regard des changements globaux.
Peut-être un dernier mot, justement, est-ce que Massamba Diouf, vous êtes optimiste sur la disponibilité de l'eau future, sur son traitement, sur son stockage, sa mise à disposition? Est-ce qu'on va de l'avant et c'est plutôt bien, ou est-ce qu'il y a encore des blocages qui font que la situation reste et restera tendue?
On peut dire qu'on est très optimiste par rapport au devenir de la question de l'approvisionnement en eau des populations africaines. Hein. Parce que si je prends l'exemple du Sénégal que je maîtrise mieux, comme il dit, c'est pas forcément que c'est un nouveau dispositif qui est installé et qui n'est forcément pas accepté par les populations. On a des exemples de dispositifs très occidentalisés, hein, et qui ont été installés en plein milieu rural et qui marchent. Quasiment toutes les populations qui sont aux alentours se ravitaillent en eau potable dans ces zones-là. Il y a aussi parallèlement, comme je l'ai dit tantôt, des dispositifs traditionnels que les gens ont éprouvés au laboratoire et qui ont véritablement montré des résultats assez satisfaisants du point de vue du goût et du point de vue de la composition physico-chimique. Donc, quelque part, si de telles pratiques sont vulgarisées, si de telles pratiques sont réparties au niveau du territoire, certainement les populations peuvent avoir accès à une eau de qualité sans pour autant qu'il y ait des difficultés majeures.
Je voulais juste compléter sur une vraie démarche et une prise en charge par le politique de l'ensemble de ces enjeux, à la fois à l'échelle internationale, si on fait référence aux objectifs de développement durable, il y a... s'assurer autant que possible que le maximum de population puisse avoir accès à cette ressource, et une déclinaison à l'échelle des États, et notamment au niveau du Sénégal, cette politique hydraulique qui a été déployée sur l'ensemble du territoire en favorisant le développement de nouveaux forages et de nouveaux puits, oui. Mais qui pose un certain nombre de questions au niveau de l'organisation des sociétés, de l'occupation des territoires, et donc de la nécessité d'avoir un certain accompagnement par rapport aux conséquences et aux impacts que ça peut avoir sur les populations, sur leur mode de vie, mais aussi d'un point de vue environnemental. Ça veut dire, dans des populations qui sont en général nomades, ça veut dire une sédentarisation plus grande avec des troupeaux, donc des pressions sur la ressource qui vont être redistribuer en fonction des territoires, et donc les enjeux aussi de l'environnement qui va être soulevé par rapport au déséquilibre ou au rééquilibre à trouver pour les socio-écosystèmes de cette nouvelle redistribution de la ressource et organisation sociale et des sociétés qui est complètement en lien avec la répartition des rôles.
Jérôme Lavanowski, un dernier mot.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Agathe. Je pense qu'effectivement, quand on touche à l'eau, on ne se rend pas compte, on pense toujours bien faire, mais il faut vraiment bien étudier quelles seront les conséquences que ça peut engendrer. Et ces conséquences dépassent largement le cadre technique. Finalement, on a toujours l'impression que c'est une question d'argent et de problématiques de cet ordre-là, mais finalement, on voit bien que derrière, il y a une vraie dimension humaine, culturelle, et que tous les changements qu'on va faire, il y a vraiment énormément de réflexions à avoir quand on veut jouer sur l'eau, quand on veut toucher à ça. Et comme a dit Agathe, effectivement, cette notion à la fois stratégique, vraiment très très politique, mais au-delà de l'État quelque part, est très 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 importante à prendre en compte.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Vous pourrez retrouver tous les autres épisodes de cette saison 2 de La Fabrique du Savoir sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt.